Bonjour, bienvenue à Point de vue, le podcast 100% cinéma à Montréal. C'est le FNC jour 4. Mon nom est Paul Andriot et je suis avec mon collègue
Pascal Plante, on est en direct de l'Impérial.
Donc Pascal, hier tu as eu la chance de voir la première de Tom à la ferme de Xavier Dolan, une séance qui affichait complet. Xavier n'y était pas, il a donné un petit mot par vidéo. Comment ça s'est passé la première?
Ben en fait, oui, ben tu dis la chance, puis c'est vraiment une chance parce que en fait, je suis même pas arrivé comme super super à l'heure. Puis avec une passe, quand vous avez une passe, c'est pas garanti évidemment que vous rentrez dans les projections qui sont sold out. Parce que je pense qu'ils laissent rentrer un peu comme à Fantasia, je pense que c'est le même principe. Ils laissent rentrer un certain nombre de gens avec la passe. Après ça, ils font passer tous les gens avec des billets et après ils comblent la salle avec les gens avec la passe. Et puis moi, en fait, ben je me suis retrouvé, j'étais à peu près dans les 10 personnes qui ont pas pu rentrer à la base. Et puis là, Claude Chamberlain comme un sauveur a dit non, rentrant dedans. Aller sur le balcon, puis dans le fond, on a ouvert le balcon pour ça. Donc, tout le monde a pu y assister. Ça, c'est vraiment d'ailleurs un bon coup là, du festival, de pas laisser personne en plan comme ça sur le bord de l'Impérial le soir. Donc, oui, c'est ça, Xavier Dolan est en tournage à Longueuil, donc il n'a pas pu être là.
Il est rapide, hein? Quand même déjà un cinquième film en tournage. En tout cas, moi, je trouve que c'est formidable pour lui, tant mieux, c'est cool, mais ouais, très prolifique.
Mais on peut plus le balayer de la main, tu sais, on peut plus... Parce que je trouve qu'au début, on le catégorisait beaucoup... comment je peux dire ça? On le réduisait beaucoup en parlant de ses influences, en citant, bon, Wong Kar-wai, Almodovar et compagnie. Mais là, vraiment, en plus, Thomas Laferme s'inscrit comme un film de un qui est quand même très différent de ses autres films. Hein? On est plus proche d'un thriller psychologique à la Polanski que L'exubérance de Lawrence Anyways. Là. On est vraiment, vraiment pas à la même place. Par contre, il y a des éléments récurrents, il y a des thèmes récurrents, il y a une approche du cinéma qui lui est propre. Donc, je pense qu'aujourd'hui, en fait, on peut vraiment parler d'un cinéma de Xavier Dolan à part entière qui transcende ses influences, en fait.
Et même son âge, parce que pour longtemps, on a dit « Ah, j'ai tué ma mère, c'est génial, c'est pour un jeune. » Mais là, on parle plus de Xavier Dolan comme ça, on parle d'un des cinéastes contemporains qui fait le cinéma maintenant.
Oui, absolument. Puis, dans le fond, ça va être encore un des meilleurs films québécois que j'ai vu cette année. Bon, c'est sûr, c'est pas un film parfait. Xavier Dolan, il y a tout le temps des petits trucs qui m'irritent dans ses films. On dirait qu'il n'y a jamais quelque chose qui... Comment je peux dire ça? Je peux jamais m'abandonner à 100% dans ces films, on dirait. Mais c'est peut-être parce que ces films sont le fun à analyser. T'sais, un peu comme Alfred Hitchcock, par exemple. Pourquoi il est peut-être si important dans l'histoire du cinéma? C'est au-delà de comment tu apprécies ces films. Ils sont tellement le fun à décortiquer, puis à analyser, puis à voir comment il a fait tel plan de caméra, comment il conçoit son scénario. Xavier Dolan, c'est tellement vivant au niveau de la mise en scène puis au niveau du style que, justement, bon, c'est sûr que ça a le mauvais côté que je peux jamais me dissocier de ma tête quand j'écoute un film de Xavier Dolan, t'sais, parce que le style... Il déborde à l'écran, sauf que, je veux dire, c'est toujours une montagne russe, puis c'est toujours très, très fort au niveau des émotions. Thomas Laferme, il fonctionne très bien.
Et d'ailleurs, il y avait un article intéressant, il y a eu des petites échanges sur Twitter un peu vifs entre Xavier Dolan et un critique new-yorkais, je crois, parce qu'il le taxait d'être très narcissique et de jouer encore dans son film et de passer beaucoup de plans de caméra comme juste sur son visage, etc. Est-ce que pour toi, c'était un problème que Xavier Dolan interprète le rôle principal encore une fois?
Non, parce qu'il ne se joue pas lui-même, ce qui est une très bonne chose. Non, c'est ça, c'est un personnage qui est assez loin de lui, jusque dans le look hein, vestimentaire, évidemment, les cheveux, l'espèce de cheveux en bataille blond, long. Le fait qu'il joue enfin peut-être un personnage... Et ça, c'est une force du film global, c'est que j'ai pas l'impression que cette fois-ci, il parle de ce qu'il connaît de l'immédiat. Tu sais, je pense qu'il a grandi à Longueuil, mais il a pas grandi non plus à la ferme. Tu sais, il est pas en train de parler... C'est comme quand Guy Edouin fait un film comme Marécage, par exemple, ça paraît que le gars, il a grandi dans un environnement comme ça. Dans Thomas la femme, c'est pas le cas, mais ça sent la vraie documentation. Puis il a fait de quoi qui est loin de lui. Aussi, c'est une première collaboration d'écriture. Ça se fait peut-être ressentir, mais le scénario est très, très fort. Puis je trouve que, par exemple, un Lawrence Anyways, la mise en scène était peut-être plus solide que le scénario, si je peux me permettre. Dans ce film-ci, j'irais même jusqu'à dire que c'est peut-être le contraire, en fait.
Ah ben c'est intéressant. Donc, on a très hâte de voir ça. Moi, je vais l'attraper le printemps prochain, donc ça va être plusieurs longs mois d'attente.
Peut-être juste dire qu'en fait, il rejoue ce dimanche à 16h20 à l'Excentris et cette fois-ci, Xavier Dolan va être là, je pense, toute la journée un peu pour se faire pardonner de son absence. Il va rôder aux alentours de l'Excentris toute la journée. Donc, puis manquez-le pas. Il joue dans tellement de zones. C'est comme, il va utiliser une musique hyper stylisée. Oui, il va avoir certains slow motion, mais d'autres moments, on est en caméra à l'épaule, on est dans quelque chose de très, très, très authentique, très cru, plus violent aussi que ses autres films, moins léché, moins poli. C'est pas sans déplaire, au fait. Puis juste pour que vous compreniez un peu le ton du film, c'est un film qui est quasiment plus proche d'une espèce de délire surréaliste, quasiment à la Louis Buñuel, mélangé avec du mélodrame Fassbinder ou Douglas Sirkin, dans un sens, que ses autres films. Moi, je serais vraiment curieux de lui demander quelles sont ses influences dans ce film-ci, parce que ça ratisse tellement large, puis c'est tellement différent des autres, de ses autres films, que ça vaut le détour. Puis ça vaut le détour même, pour, même si vous n'aimez pas nécessairement les autres... Même si vous avez, coup sur coup, été déçu des films de Xavier Dolan, laissez quand même une chance à celui-ci, parce qu'il pourrait vraiment vous surprendre.
Parfait. Merci beaucoup, Pascal. On va pointer maintenant les gens vers quelques suggestions de la journée. Moi, je pense qu'une soirée incontournable qui risque d'être très émotive, c'est l'hommage à Michel Brault à l'Impérial ce soir. Les ordres vont être présentés, le film majeur du cinéma québécois, dans une version restaurée. Et c'est gratuit. Donc, pourquoi se priver? Je pense que s'il y en a qui n'ont peut-être pas encore vu ce film, c'est possible. Venez donc voir ce monument du cinéma québécois.
Il n'y a rien à rajouter. Hein. Les autres, quand ils font des palmarès des plus grands films au Québec, je pense qu'ils sortent tout le temps dans peut-être les 3-4 films incontournables de notre cinématographie québécoise. Puis en fait, c'est ça, c'est avec le programme Éléphant de Pierre-Carl Pelladeau de Québécois qui a restauré le film. Parce que aussi, c'est ça, l'édition DVD lui rendait vraiment pas justice. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Pierre-Carl Pelladeau, puis moi-même, je suis très nuancé sur le propos, puis je ne m'étalerai pas ici. Mais le programme Éléphant, c'est très, très bien ce qu'il a fait. C'est dans le Ventre du Dragon, ça, c'est à Fantasia. Par contre, mais ce qu'il avait fait avec Dans le Ventre du Dragon, c'était à hallucinant. Un Zoo la nuit qui était à Fantasia cette année. On s'attaque quand même à des pages de notre histoire du cinéma québécois. Les autres, c'en est une indéniablement. Donc, si vous ne l'avez pas vu, c'est peut-être la chance de le voir dans toute sa splendeur.
Et lors d'une entrevue avec Philippe Gageant, il nous dirigeait vers le film Shirley, Visions of Reality. Ça joue ce soir au Cinéma du Parc à 20h50. Donc, on a bien hâte de voir ce film très curieux.
Oui, puis c'est ça. Entre autres, le Shirley, moi aussi, j'en avais pas entendu parler nécessairement. On dirait que, je sais pas pourquoi, le FNC Lab, tu le feuilles, mais on dirait que tu le feuilles. Moi, personnellement, puis c'est mon meilleur culpa, mais je le feuille peut-être pas avec la même attention que peut-être les présentations spéciales ou que la compétition internationale. Or, on devrait, puis c'est vraiment bien que Philippe nous ait dirigé vers ce film-là. J'ai lu là-dessus, j'ai regardé un peu des images, des séquences, ça a l'air absolument sublime. C'est autour de peinture d'Edward Hopper. Ils ont fait des séquences autour de peinture célèbre du peintre célèbre. Ça promet. À 21h30, il y a le film Heli, que j'ai vraiment hâte de voir, de Amat Escalante, qui joue Alexandris. C'est un film, supposément, il y a comme, tu sais, de la mutilation de parties génitales, puis tu sais, des trucs vraiment trash, mais en même temps, je pense que c'est une espèce d'histoire d'amour offbeat, à ce que je crois comprendre. C'est le film mexicain qui est dans la course aux Oscars, si on peut dire ça comme ça. Sauf que les mauvaises langues diront qu'il n'y a aucune chance de passer, ne serait-ce que parce que c'est beaucoup trop osé comme film. Donc, je pense que ça va être un film qui va faire parler de lui. Donc, à 21h30 ce soir, Heli.
Parfait. Et sinon, peut-être un petit carton jaune, un petit point contre le FNC. Malheureusement, hier, il y avait la présentation de Norte. Et moi, entre autres, j'avais dirigé les gens vers ce film-là. Il y a des amis que je connais qui ont essayé d'aller le voir. Et ils ont eu un problème avec le DCP. Et finalement, la séance a été annulée. Donc, évidemment... Je veux pas jeter le blâme sur quelqu'un en particulier, mais si ça arrive une fois dans un festival, je trouve que c'est une fois de trop. Donc voilà, juste une petite déception face au DCP. On a toujours des problèmes dans quelques festivals que ce soit. Donc ça, c'est un peu décevant. Maintenant, c'est ça, on a une entrevue avec Eve Comanche, la productrice de L'étrange couleur des larmes de ton corps, film que je jouais hier. D'ailleurs, il y a énormément de gens qui sont partis pendant le film, ça m'étonne pas. C'est pas un film pour tout le monde, mais c'est vraiment un film, je pense, qu'on adore ou qu'on déteste. Là. J'ai vraiment pas vu quelqu'un me dire « Ouais, c'était correct. » Genre, j'ai des amis qui l'ont vu à cause de moi, ils m'ont dit « Vraiment, Paul, pourquoi tu nous as recommandé ça? » D'autres qui ont vraiment adoré, donc... C'est un film qui laisse pas indifférent, puis je pense que l'entrevue est très pertinente avec la productrice.
Parfait, on va aller écouter ça.
Donc, vous écoutez Point de vue, le podcast 100% cinéma à Montréal. J'ai la chance aujourd'hui d'être avec Eve Comanche, la productrice de L'étrange couleur des larmes de ton corps. Eve, bonjour.
Bonjour.
Ça va bien?
Oui, un peu décalé avec mon arrivée à Montréal hier, mais ça va, je commence à être dans le rythme.
C'était d'ailleurs, c'est ça, hier, la première du film à Montréal, au cinéma Impérial, une salle presque pleine, en fait, et beaucoup d'applaudissements. Vraiment, ce film-là, moi, je le vois comme un concert rock, pratiquement. Je ne sais pas si vous pouvez nous parler peut-être un peu de la perception que vous avez eue du public face à ce film, qui est quand même assez radical.
C'était la première fois que j'assistais à une projection publique du film hier soir. Mais j'ai eu les échos de Hélène et Bruno qui, eux, ont été accompagnés le film dans d'autres festivals. Depuis qu'on a commencé à exploiter le film Et je crois qu'à chaque fois, le film procure une sensation d'intensité très, très physique, très... Il touche aux viscères presque. Quand tu dis que c'est une expérience très rock, je pense que c'est vraiment ça.
Oui, d'ailleurs, physiquement, c'est très intense, mais psychologiquement aussi, le film, finalement, c'est une espèce de voyage dans le surréel, dans l'inconscient, dans un peu les bas instincts. Le film est ultra-violent, il y a beaucoup d'imagerie sexuelle aussi. Donc, d'emblée, ça vous coupe certainement d'un certain public. Mais quelle est votre approche face à ça? Est-ce que vous voulez que les spectateurs osent voir le film? Est-ce que vous devez aller chercher les spectateurs? Ou au contraire, vous assumez peut-être ce côté radical que le film n'est pas pour tout public?
Mais disons que ce qu'on voit, nous, ce qu'on pense du film, c'est qu'il est très accessible. J'exagère peut-être, mais en tout cas, on voit plutôt le film comme un film à la Lynch, dans lequel on peut rentrer par plusieurs portes et arriver à se perdre à certains moments et à se retrouver à d'autres et à se créer son propre film. Ce qu'on imaginerait bien avec L'étrange couleur, ouais, vraiment, c'est que tout le public qui aime Lynch puisse apprécier aussi ce film. Et voilà. Et donc, c'est pour ça que pour nous, c'est pas un film du tout fermé ou quoi, mais au contraire, à notre avis, qui peut toucher un public large, dans la fourchette lynchienne, par exemple, mais en tout cas, voilà, qui est ouvert.
Et moi, ça, j'ai vu le film en projection de presse un matin. Je dois dire que c'est meilleur qu'un espresso double. J'avais la réflexion, en fait, que ce film-là, c'est un peu comme le film de minuit ultime. Mais malheureusement, comme à Montréal, on n'a plus vraiment ce réseau de cinéma qui diffuse des films de minuit ou du moins en dehors de, c'est ça, le Festival du Nouveau Cinéma ou le Festival Fantasia, par exemple. J'ai l'impression que c'est un créneau qui n'est plus vraiment exploité dans les cinémas, que c'est plutôt en DVD et en Blu-ray qu'on pourrait trouver un peu ce style de film. Est-ce qu'en France, il y a encore peut-être un réseau de salles qui diffusent des films à minuit? Comment voyez-vous la diffusion du film?
En France, je crois que ça se fait plus non plus depuis un petit temps également. Je sais qu'en Belgique, il y a une salle de cinéma à Bruxelles qui s'appelle Les Galeries, qui a essayé de réinstaurer le concept séance de minuit, comme ça, où ils ont pu passer par exemple les films de la Belle Ferrara ou quoi. Et c'est vrai que c'est un créneau qui était super et qui, voilà, permettait de montrer des films et de trouver le public qui aimait bien voir ce genre de film dans une séance un peu de rêve éveillé comme ça en minuit. C'était chouette, mais malheureusement, effectivement, ça se fait plus trop. Et comment est-ce qu'on voit la diffusion par rapport à ce film? De toute façon, le film, il a été conçu à la base pour qu'on le voit en salle, donc on essaye de pousser au maximum pour que le film ait une exploitation en salle de cinéma au préalable. Et par conséquent, c'est ce qui est prévu sur la France, sur la Belgique au mois de mars 2014, et puis c'est ce qui est prévu aussi en Angleterre, puisqu'on a un distributeur qui a acheté le film, c'est Metrodome, qui le sortira aussi en salle. Et puis on espère qu'il y a plein d'autres pays qui vont suivre. Et ce qu'on imagine, c'est que le film puisse avoir une vie en salle. Il faut qu'il arrive à pouvoir être vu en salle d'abord. Ça, c'est vraiment notre Là, c'est le DVD, la VOD et tout ce qui suit, les diffusions télé aussi, etc. Mais voilà, on d'abord focus sur la salle.
Oui, parce que ce qui frappe d'abord, c'est évidemment le visuel du film, mais je pense que la bande audio contribue énormément à l'ambiance du film. Il y a d'ailleurs En fait, ce qu'il faut avec ce film-là, c'est toutes les techniques différentes de cinéma. Je pense, pour moi, c'est un peu comme L'homme à la caméra. Mais dans un contexte de fiction 2013, un film un peu surréel à chez Andalou aussi peut-être. Et justement, je me demande, pour un film qui nécessite autant de post-production, est-ce que c'était pas un peu compliqué lors du tournage peut-être de visualiser le résultat final, ou est-ce que vous aviez une confiance envers les réalisateurs dont vous avez déjà produit le premier film?
C'est vraiment ça, j'ai confiance dans le travail de Hélène et Bruno, je sais maintenant comment ils travaillent et en fait tout est très très préparé dès le scénario. En fait, tout est dans le scénario, il y a tout ce qu'il y a maintenant dans le film. Rien.
Donc, par exemple, s'il y a une séquence, à un moment donné, c'est comme vraiment que des photos, presque comme un photoroman qu'on suit avec une bande audio. Donc ça, c'était indiqué dès le scénario?
Tout à fait. C'était écrit, voilà, la séquence qui va suivre est en noir et blanc, avec des photos, comme un photomontage, comme ça. Oui, ouais, tout à fait. Tout était vraiment pensé... au préalable, mais il faut savoir que ce film-là, Hélène et Bruno l'ont en tête depuis 2002, je crois, quelque chose comme ça, qu'ils l'ont écrit et tout ça. Donc voilà, au moment où il a pu se concrétiser, je pense qu'il l'avait imaginé de tous les angles possibles et tout, et ce qui fait que donc le scénario final est très proche du film final, que au moment de lancer le tournage du film, ils ont travaillé pendant 3-4 mois sur le découpage très très précis, et que au moment de la préparation, chaque poste technique est vraiment briefé, c'est exactement qu'est-ce qu'il doit faire, c'est vraiment très très préparé, et au moment du tournage, ben, tout ça n'a plus qu'à se réunir et à se passer, et ça file tout seul, quoi.
Ce qui est intéressant dans le film aussi, selon moi, c'est qu'on participe à une certaine, presque comme une réécriture de l'histoire du cinéma, des différentes techniques. Je pense notamment à cette scène où le personnage de Christensen, le protagoniste, se réveille nu dans la nuit et va à l'interphone de son appartement pour se rendre compte qu'un double de lui sonne à la porte. Et c'est une scène qui est comme en boucle, qui a beaucoup de variations dans cette scène. Et avec des éclairages très verts et rouges, très monochrones. Et éventuellement, il y a comme une espèce d'effet de clignotement qui me faisait... En fait, ça m'a beaucoup évoqué l'ancien 3D, celui avec des lunettes rouges et vertes, mais comme si on écoutait un film 3D sans les lunettes, finalement. Je ne sais pas si c'était conscient de leur part ou s'il y a vraiment une volonté de se questionner sur l'évolution de la technique au cinéma, peut-être.
Je pense que on n'en a jamais parlé en ces termes-là, mais je suis certaine que c'est quelque chose qu'ils ont pensé, oui, parce qu'ils sont amoureux effectivement de tout ce qui est technique, la matière. Il y a toujours dans leur film une séquence est toujours abordée par un procédé, une façon de filmer. Il y a par exemple, pour évoquer le au début, le personnage qui est un peu alcoolisé comme ça, parce qu'il rentre chez lui, sa femme est disparue et il commence à boire en l'attendant. Et donc voilà, là c'est des flous, c'est l'image qui est vertigineuse d'un coup. Il y a toujours vraiment une recherche de la forme qui est associée à ce qu'ils veulent, faire passer comme message.
Oui. Donc, parce que la forme devient le fond dans ce cas-ci.
Oui, oui. Et c'est toujours leur recherche, en fait. Et du coup, c'est comme ça qu'ils arrivent à s'approprier un langage qui leur est propre à partir de matériaux qu'ils ont pu puiser à travers, oui, soit plein de films qu'ils ont vus, l'histoire du cinéma qui les a bien imprégnés. Voilà. Je crois qu'effectivement, le film, il n'est pas plus cinématographique que... Voilà, c'est...
Et le film s'est rempli de scènes fortes, d'images fortes. Je me demandais pour vous, peut-être, quelle est votre scène préférée ou votre moment préféré du film?
Le moment que je préfère, c'est celui où Dan Christensen va retrouver Barbara. Et avec la... Bon, je ne vais pas trop en dire, mais qu'est-ce que je peux dire qui ne dévoilerait pas grand-chose?
Mais je ne crois pas non plus que c'est un film où l'histoire est tellement importante. On n'est pas dans un roman, on est beaucoup plus dans une exploration formelle.
Je sais, mais dévoiler, par exemple, ouais, enfin, comment dire, voilà, j'aime cette scène pour l'érotisme qu'elle provoque et en même temps l'intensité physique aussi qu'elle provoque, puisque le personnage d'Anne Christensen souffre un peu à ce moment-là, on va dire, et pour la beauté des images qu'il y a à ce moment-là, et le rythme, la musique aussi qu'il y a dans cette séquence-là, voilà, c'est... waouh.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.